Dans tous les mariages, il y a des moments au cours desquels l'un des deux époux va se lever le matin, regarder son conjoint qui dort encore, et se demander « Mais que m'est-il donc passé par la tête le jour où je l'ai épousé ?» C'est justement à cet instant précis que la personne doit réajuster son rôle au sein de son mariage. Je pense que la majorité des couples mariés gagneraient à se remémorer plusieurs fois par jour, et non de temps à autre au cours de leur vie, le sens de leur engagement conjugal. Il est fondamental de se rendre compte que le mariage n'est pas une entreprise facile, mais qu'il requiert un réel engagement. Le mariage est comme un immeuble, comme une construction qui nécessite des fondations. Et la fondation du mariage, c'est l'amour prêt à donner la vie, exactement comme nous le rappelle l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 et 13. « Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Avant toute chose, l'amour n'est pas un sentiment, même s'il doit y en avoir, bien sûr, car l'affectif peut toujours s'étioler. L'amour véritable, celui qui vient de Dieu, ne passe pas. Il est solide et éternel. Aujourd'hui, on confond l'amour et les sentiments. C'est tellement vrai que le mot « amour » s'utilise de manière très superficielle. Dès qu'on entend le mot « amour », on pense tout de suite à un contexte romantique, voire à l'amour physique. Et de nos jours, la principale cause d'échec des mariages, c'est qu'ils ne sont pas construits sur un véritable amour. Il est nécessaire de cultiver d'abord l'amitié, avant d'opérer un choix définitif. Ainsi, entretenir une relation sexuelle sans avoir vérifié préalablement auprès de Dieu que la personne est bien celle de sa vie constitue ni plus ni moins qu'un sabotage du mariage. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez facilement vérifier que bien des personnes qui ont divorcé ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Cela signifie que le sexe avant le mariage n'a pas été suffisant pour éviter la séparation. Le Nouveau Testament nous éclaire avec des versets merveilleux, même s'ils peuvent nous perturber à la première lecture. Il s'agit de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, à qui il s'adresse dans ces termes. « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. » En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église, lui, le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Or, on ne hait pas sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. Attention, il ne faut pas se fourvoyer dans une explication politique de ce texte. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que nous sommes tous semblables. Or, il faut toujours un guide. Si on se réfère au Christ dans la prière, si deux personnes partagent un réel amour...